On s'entretient maintenant avec Dorian Kerr, il est directeur général du Comité régional pour autisme et la déficience intellectuelle. Bonjour.
Oui, bonjour Madame Pellerin.
Comment allez-vous?
Bien, merci, vous?
Ça va bien, merci. Donc, on parle du Comité régional pour autisme et la déficience intellectuelle. Pouvez-vous nous parler un peu des services que vous offrez?
Oui, bien sûr. Donc le CRADI, donc l'acronyme du Comité régional pour l'autisme et la déficience intellectuelle, c'est un organisme communautaire autonome qui œuvre en défense des droits et de la promotion des intérêts des personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou autiste, ainsi que de leurs proches.
Concrètement.
Concrètement, notre rôle, en fait, c'est de partir des réalités vécues sur le terrain pour favoriser l'accessibilité, la participation sociale et le respect des droits dans toutes les sphères de la vie collective. Donc, une approche qui repose essentiellement sur les valeurs de justice sociale, d'inclusion et de participation citoyenne.
Si j'ai bien compris, par contre, vous donnez donc des services plus aux autres organismes communautaires plutôt que des services directement à la population.
Oui, tout à fait. On est un regroupement d'organismes, en fait, de plus d'une trentaine d'organismes qui, eux, en fait, sont des organismes qui offrent des services directement à la personne, puis qui sont tous, en fait, en déficience intellectuelle ou autisme et qui sont directement sur le terrain, en fait. Hein. Le CRADI, en fait, est né, c'est existe depuis 1989, puis c'est né d'un constat partagé, justement, par des citoyennes et des citoyens, des proches et des organismes communautaires qui manquait vraiment un espace commun pour défendre les droits de façon structurée et concertée.
Donc, ce que je comprends, en fait, de ça, c'est que le regroupement sert à avoir plus de poids et plus de ressources pour défendre les droits lorsque c'est nécessaire.
Oui, tout à fait. C'est ça, en fait. Si les droits sont reconnus sur le plan légal, dans la vraie vie, leur application reste souvent quand même assez incomplète. Donc, pour les personnes en situation de handicap, l'accès à un service, à un transport, à un programme ou même simplement à un lieu peut encore représenter un parcours extrêmement complexe, parfois décourageant. Donc, le CRADI, en fait, existe pour briser cet isolement, outiller les personnes et surtout les organismes à transformer des situations individuelles que les personnes ou les organismes eux-mêmes vivent en enjeux collectifs.
Et vous avez quand même une certaine expérience pour être capable d'orienter ces centres communautaires-là vers des ressources pour être capable de les informer sur leurs droits et sur leurs recours.
Oui, tout à fait. Ben, on travaille beaucoup avec en concertation, en fait, puis en échange avec des comités qui sont, eux, plus spécifiques, que ce soit en transport adapté, au niveau du répit, au niveau de l'approche aidance. On travaille beaucoup avec les CIUS. Donc, nous, en fait, on est aussi un portail de visibilité et de redirection aussi, d'expertise. On analyse beaucoup les enjeux, le soutien dans les démarches et les prises de position.
Et on en parle beaucoup et on en parlait un peu avant de vous recevoir avec les invités qui étaient là avant vous. Il y a des besoins au niveau du communautaire, il y a des difficultés dans le communautaire en ce moment. Comment vous le vivez de votre côté au CRAVI?
Actuellement, le milieu communautaire fait quand même face à des défis assez majeurs. On parle beaucoup de sous-financement chronique, de pénurie et aussi de rétention de main-d'œuvre. Puis une lourdeur administrative et des besoins qui sont vraiment de plus en plus importants et divers sur le terrain, que ce soit auprès des personnes, de leurs proches, des organismes. Donc dans ce contexte, la défense des droits demande du temps, de l'expertise et des ressources que les organismes n'ont pas toujours. Donc nous, on devient alors une sorte de levier en fait pour soutenir le milieu et mutualiser les enjeux. On agit un peu comme un organisme pont entre les réalités vécues par les personnes autistes et vivant avec une DI et les organismes communautaires qui les soutiennent et des lieux où se prennent des décisions, en fait. On fait un peu la jonction entre les deux.
Donc, les besoins augmentent de votre côté, c'est-à-dire que vous voyez que les centres communautaires ont plus de besoins, finalement.
Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment, c'est tout à fait notable. On a vraiment des défis qui sont de plus en plus importants. Hein. Je veux dire, l'un des défis principaux, par exemple, est l'accès aux services, notamment les services adaptés et aux ressources, que ce soit pour le transport, les soins, le soutien à domicile, l'éducation. Beaucoup de personnes se heurtent à des systèmes de plus en plus complexes, à des délais de plus en plus longs, des services beaucoup trop limités. Donc même quand les services existent sur papier, en fait, leur application concrète est parfois difficile, ce qui peut vraiment isoler les personnes et leurs familles. On parle aussi des enjeux de participation sociale et d'inclusion. Les personnes, vous savez, sont souvent confrontées à des barrières sociales, tout ce qui est préjugés, stéréotypes, la discrimination, manque de sensibilisation. On a aussi de l'isolement social et des accessibilités limitées aux activités aussi, hein, parce que ce soit au niveau des programmes, des loisirs ou des événements qui ne sont pas nécessairement adaptés. C'est ça.
Ce que je comprends de ça, c'est qu'on s'attaque de plus en plus aux droits fondamentaux des personnes avec des déficiences intellectuelles ou de l'autisme. Hein. Donc, il y a le droit finalement à l'éducation, le droit au transport, il y a le droit au travail. Bon, c'est de plus en plus, il me semble, de difficultés à faire reconnaître des droits qui sont pourtant fondamentaux et inscrits dans la charte. Non?
Oui, tout à fait. Ben, c'est surtout aussi un manque peut-être de... Un manque de connaissance, en fait, du grand public au niveau des enjeux, c'est peut-être aussi une méconnaissance aussi des réalités des personnes qui vivent ce genre de situation. Vous savez, l'autonomie, comprendre ses droits, connaître les recours possibles, faire des choix éclairés, c'est un défi pour plusieurs personnes oui. aussi qui informer, outiller, redonner du pouvoir d'agir. C'est aussi pour ça que le communautaire a agi, en fait, pour peut-être sensibiliser nos politiques, sensibiliser un peu plus aussi les élus aux réalités, en fait, que vivent les personnes sur le terrain, la diversité, l'inclusion, pour justement sensibiliser et qu'ensuite soient prises des décisions qui vont vraiment aller à l'avantage de ces personnes-là, mais toujours en pensant à soutenir le communautaire qui est un filet social, en fait, nécessaire à la société et qui s'effrite de plus en plus et dont on ne prend pas ses soins, malheureusement, effectivement, oui.
Et on a parlé beaucoup des enjeux, des organismes qui étaient qui travaillaient avec vous. Au niveau du CRAVI, en tant que tel, est-ce que vous avez les mêmes enjeux?
Nous, en fait, les enjeux qu'on a, ça serait plus au niveau du financement, je vous dirais. Comme on est en défense des droits, il y a vraiment des enjeux majeurs au niveau du financement pour justement entretenir, en fait, le côté démocratique, en fait, du communautaire qui pourrait justement réfléchir et peut-être parfois prendre des décisions qui n'est pas nécessairement abonde dans le sens des décisions qui sont prises par le gouvernement, mais de pouvoir juste au moins les remettre en question, les réfléchir et pouvoir les élaborer en fait différemment pour qu'elles soient beaucoup mieux adaptées, beaucoup plus prises en considération. Mais c'est sûr que ce sont des organismes en fait qu'il faut soutenir financièrement. En fait, nous, on est autonome, il faut qu'on puisse rester autonome. Donc il faut qu'on ait du financement pour ça qui va pouvoir nous permettre de l'être.
Et quelles sont les solutions à mettre en place selon vous là, à court terme ou à moyen terme?
Ça serait là par exemple les élections provinciales qui s'en viennent, ça serait une très belle occasion en fait de pouvoir trouver des solutions, de pouvoir solliciter nos élus et de leur rappeler l'importance en fait des décisions politiques et des impacts qu'elles ont sur la vie des personnes vivant avec un handicap en matière de services, de transport, de logement, d'éducation, de soutien aux proches. Ça va vraiment influencer concrètement l'inclusion au quotidien. Les droits, vous savez, même si les droits sont reconnus, leur application demeure oui. souvent fragile.
Et est-ce que vous pensez que c'est assez reconnu en politique? Est-ce qu'on en parle assez de ces besoins-là, de ces droits-là, des personnes qui vivent avec des différences?
Ben, ça serait jamais assez, je vous dirais. Les élections, nos politiciens, en fait, nous on souhaite une société plus démocratique, qui soit réellement inclusive. Il faut vraiment que tout le monde puisse comprendre les réalités, puisse s'exprimer, puisse participer. Donc il faut vraiment que nos politiciens en fait abondent dans ce sens-là et effectivement puissent arriver à proposer des solutions en fait pour informer, sensibiliser, faire entendre les réalités, en fait, que nous on puisse faire entendre les réalités vécues par les personnes des ITSA et leurs proches.
Donc, il y a vraiment, ce que j'en entends, c'est qu'il y a vraiment un manque au niveau du fait d'en parler pendant les élections, puis d'en faire des enjeux qui sont centraux.
Ben là, on ne le sait pas encore parce que les élections commencent bientôt.
Oui, je parlais espère... évidemment dans les dernières années. Hein.
Oui, non, on espère vraiment que là, le message sera beaucoup plus clair, beaucoup plus entendu, en fait, et que les décisions iront vraiment abonderont dans le sens des personnes pour une inclusivité un peu plus élaborée, en fait, parce que là, pour l'instant, effectivement, au niveau du fil, juste une reconnaissance du communautaire, une reconnaissance de l'approche aidance, une reconnaissance de la diversité aussi qui fait notre société, en fait, serait vraiment oui. comme quelque chose qu'il faudrait vraiment penser à mettre de l'avant auprès des futurs candidats.
Et quels sont les projets pour le CRAVI en 2026?
Outre les élections, ils vont quand même être un gros mandat. Le CRADI travaille aussi en concertation avec une dizaine d'autres organismes à l'élaboration d'un événement qui s'appelle D'un œil différent. J'en profite pour vous en parler parce que ça arrive bientôt. En fait, ça a lieu chaque année à l'Écomusée du Fier Monde et un peu partout à Montréal d'ailleurs. Donc ça commence le 11 mars, c'est du 11 au 22 mars, dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. Donc c'est un rendez-vous en fait culturel vraiment assez unique et qui met en lumière plus de 200 artistes. 200 artistes au-delà de la déficience intellectuelle et de l'autisme, et je dis au-delà parce que c'est un événement qui veut avant tout inclusif et qui rassemble beaucoup d'artistes amateurs, professionnels, qui sont issus d'ateliers d'art adaptés, qui vivent avec ou sans déficience intellectuelle ou autisme d'ailleurs. Puis là on parle d'exposition, de performances, de rencontres, tout un éventail pour célébrer la créativité un peu sous toutes ses formes. Puis c'est une plateforme de visibilité incroyable aussi pour les artistes et une occasion de sensibiliser la communauté justement à l'inclusion et notamment à l'inclusion artistique.
Si on veut plus de détails sur cet événement-là ou des détails sur votre organisme et vous aider, où est-ce qu'on peut aller?
Ah oui, alors vous avez pour le D'un œil différent, c'est www.dunoeildifferent.com en un seul mot. Puis pour le CRADI, www.cradi.com, tout simplement, en fait. Voilà, c'est un site internet sur lequel vous retrouvez toute l'information nécessaire, la programmation d'un œil différent, et un documentaire aussi qui s'appelle Au cœur des années différents, qui est vraiment vous allez plonger dans l'univers des organismes et des artistes qui participent au festival, donc c'est très intéressant à découvrir. Je vous invite à visiter ces pages-là.
Monsieur Keller, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes directeur général du comité régional pour l'autisme et la déficience intellectuelle, le CRAVI. Donc, on va suivre avec intérêt vos projets pour 2026. Merci.
Merci beaucoup, Mme Pellerin. Bonne journée.
Bonne journée.